Ben, en mettant des bouts de bois comme un tipi. Oui. Et après on l'allume, puis on laisse cuire les poteries.
Combien de temps?
Deux jours, à peu près.
Non, pas deux jours, c'est... Faut attendre que le bois est tout brûlé. Faut qu'il soit tout brûlé. Et puis après, on met les cendres dessus, les braises dessus. Et on les laisse refroidir pendant deux jours.
Progressivement, comme ça, ça éclate pas tout de suite.
Ça éclate pas.
Alors Claudine Vatini, vous êtes une ancienne enseignante et directrice de l'école. À partir des années 60.
1963. Je suis arrivée ici après à la sortie de l'école normale. Je m'y retrouvais bien, moi. Moi, j'ai été élève jusqu'en 6e dans une école de Sologne, dans une classe unique. Et je sais pas, peut-être que tout ça fait que...
À la campagne.
Ouais. J'avais entendu parler de Crolly parce qu'on avait une formation vraiment où on nous parlait de tous les pédagogues. Donc j'ai découvert cette école. Ça m'a plu.
Ça démarrait comment la journée à De Crolly?
Ça démarrait pendant longtemps, tant que Mademoiselle Valoton était là, ça démarrait par une chanson. Donc il y avait le long du, moi ce que j'ai connu, le long du bâtiment provisoire, il y avait une espèce de petit muret. Et on était rangés tous, de la 11e jusqu'à la 3e, et puis on chantait.
Mademoiselle Valoton, c'était vraiment la scout, quoi. J'étais connue dans un camp scout, mes parents et elle, donc ça faisait très ça, quoi. On avait les rangs, on chantait des petits chants.
Par exemple,
ding dong, la sonne sonne, ding dong, vite à courant, qu'il ne manque personne, et nous rirons.
Moi, j'ai pas connu ces chansons-là, c'était plutôt au premier mois de l'année, que donnerais-je à mamie.
Oui, c'est bien, c'est gay, c'est joli d'être à De Crolly.
Muon Valoton, 1990.
Alors, dans une école, je ne sais pas, moi, j'ai vraiment, dans une école nouvelle, le sentiment que ce qui était très important pour l'école, c'était que, d'une part, l'école fasse vraiment, soit une, et qu'on se sente une grande famille avec des petits, des grands. Et chaque matin, nous avions un rassemblement de toute l'école. Nous avons été jusqu'à 350, comme ça, en rang, par classe. On chantait. On disait ce qu'on avait à dire, les enfants disaient ce qu'ils voulaient dire, les classes donnaient quelques brèves nouvelles, et puis ensuite chacun rentrait. Mais j'ai toujours trouvé que ce moment était très, très, très important.
Marie-Alice Hartel, vous êtes une ancienne élève de l'école de Crolly, alors années 50,
hein,
54 exactement. Alors comment se fait-il que vos parents aient choisi, et vous d'aller au collège. Hein,
moi, j'ai rien choisi, mais j'étais très, 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 très heureuse. Mes parents étaient des instituteurs freinets, à la base. Ils étaient intéressés par les méthodes nouvelles. Moi, je sais quand j'étais très, très mal en primaire, je détestais l'école, j'étais pas bien dans ma famille. Plus ça allait, plus j'étais dans les dernières de la classe, et j'aimais vraiment pas l'école. Et ça a été, je pense, une des très, très, très bonnes choses qui me soit arrivée dans ma vie. Il y avait des thèmes qui étaient lancés par la directrice de l'époque qui s'appelait Mademoiselle Valoton et qui était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Une dame massive, avec beaucoup d'autorité, faisait aussi le latin. Et elle avait lancé cette année-là, comme c'était les 10 ans, donc il y avait un thème qui était décliné en solidarité pour le collège, étudier la solidarité, et ensemble pour les petites classes, qui était la même chose, mais dit de façon un peu plus... Voilà. Et donc, on travaillait là-dessus. Et alors, quelque chose qui était très intéressant et très intelligent, je trouve, c'est que tous les lundis matins, on avait le choix de ce qu'on appelait notre club. Et comme ça, le lundi matin, au lieu de rentrer pour se dire à l'école, on rentrait en disant « Ah, je vais faire de la reliure. Ah, je vais faire de la visite de musée. Ah, je vais faire du handball. » On rentrait avec quelque chose qu'on avait choisi. Et qui changeait.
Et qui durait une semaine.
Qui durait un trimestre. Pendant un trimestre, on visitait des musées tous les lundis matins. Si on avait choisi ça. Moi, c'est ce que j'avais choisi souvent. Après, j'ai choisi aussi autre chose. On faisait des dessins. Bon. Alors, c'était en beaucoup plus petits groupes. Et ça nous donnait beaucoup d'appétit pour le lundi matin.
J'aime pas le poisson. C'est bon, hein. Tu l'as goûté au moins?
Tu te lèves et t'accompagnes.
Mais non, pas là, ma belle.
Tu vas aux toilettes?
Bien sûr. Oui, mais tu reviens tout de suite.
Est-ce que la cantine est aussi un lieu participatif?
Tout à fait, vous y êtes. C'est-à-dire qu'ils participaient à la fois au fait de préparer la table et au fait de la débarrasser. D'autant qu'il y avait peu de personnel pour s'occuper de préparer les repas et donc il fallait aider. Quoi. C'était bien.
Michel Daubet.
L'atmosphère, la discipline, c'était toujours quelque chose qui était régulé par les enfants. Et je me souviens, nous étions appelés les uns après les autres à aller participer à ça. Et quand on y allait, quand il y avait un problème, eh bien, celui qui était là et qui voyait que le brouhaha s'accentuait et que l'atmosphère devenait un petit peu agitée, levait la main, simplement, et il attendait. Et les enfants, petit à petit, regardaient et à leur tour levaient la main. Et puis, tout s'apaisait et on repartait. Il n'y avait pas de discipline coercitive, bien entendu. Quand il y avait des difficultés, on s'expliquait, on discutait, et les jeunes, les enfants, les adolescents avaient la parole. On réservait un temps chaque semaine, alors je ne sais plus quel était le temps, peut-être était-ce une heure, je ne sais pas quoi, où il s'agissait de ça, c'est-à-dire, bon, alors allez-y, quel problème? La vie de la classe, la vie de l'école, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ils pouvaient exprimer tout ce qui, à leurs yeux, apparaissait comme important, en positif comme en négatif. Et cette capacité, entre autres, qui me paraît particulièrement importante, à présenter à d'autres quelque chose qu'on connaît bien, savoir bien trouver les articulations, réaliser l'architecture qui va permettre que les interlocuteurs comprennent, ça, c'est important. Tout autant que le fait d'avoir un vocabulaire ou une grammaire qui soit performante.
1968.
Jean-Marie, il y a certains problèmes qu'on ne doit pas discuter avec des professeurs. Où il y a personnellement, là, son professeur a beaucoup trop d'influence, je trouve. Sur nous, beaucoup trop. On propose quelque chose, mais on ne sait pas bien. Et tout le monde dit exactement ce que dit le professeur. Et ça, je trouve que c'est tout à fait déplorable dans un conseil de classe. Qui est un règlement de problème entre enfants d'une classe.
Dans la classe de 5e, on a tout à fait le droit de faire sortir le professeur. Et à ce moment-là, on parle entre nous. On dit au professeur, on a un problème à discuter entre nous sans que vous soyez là. Et on le fait sortir, on discute.
Des conseils d'enfants, mais vous avez tout à fait le droit d'en faire autant que vous voudrez, mais en dehors de l'école.
Non, non, là, je suis pas d'accord. Vous avez un conseil que vous appelez conseil de maître, où dans certains cas, les élèves sont admis. Permettez-moi de dire à mon tour que nous avons un conseil qui s'appelle conseil de classe et où dans certains cas, les professeurs ne sont pas admis.
Bon, il y avait un peu de vote, il y avait des discussions de classe, il y avait aussi un conseil d'école où on était délégué et on allait ensuite répercuter à notre classe ce qui s'était passé dans le conseil. Alors j'étais souvent déléguée, mais alors moi j'avais un très mauvais esprit quand même à De Crolly, et je persiflais. Alors après je me faisais gronder parce que je persiflais, parce que en même temps on adorait cette école, mais on n'était pas dans une adhésion béate, on n'était pas témoin de Jéhovah ni tout ça. Donc moi j'ai fait des tas de conneries, je me suis fait gifler au moins 3 ou 4 fois à De Crolly par Monsieur Boulade d'abord et Mademoiselle Valoton ensuite, parce que je faisais des trucs qu'on doit pas faire, mais en même temps on était vivants, quoi. Et c'était pas humiliant. Moi, je me souviens que je harcelais avec ma meilleure amie, je harcelais un pauvre Anglais qui s'appelait Crompton en l'appelant Crouton, et on n'arrêtait pas de l'embêter. On piquait des fous rires hormonaux terribles. Enfin bon, la directrice nous a convoqués et nous a dit que c'était un comportement de petite, et elle nous a fait passer à chacune une journée dans une classe de petite. Voilà, ça nous a servi de leçon. C'était pas humiliant, donc, et c'était pas non plus une punition absurde. Ça avait un sens.
C'est vrai qu'à Saint-Mandé, il y a des conseils, hein, ce qui se retrouve aussi dans la pédagogie Freinet. Hein.
Sylvain Vanier.
C'est pas simplement des moments où, quand on a un problème, on va essayer de le régler. C'est quelque chose qui revient de façon hebdomadaire et qui est un travail important. Et ça se retrouve dans d'autres écoles de Crolly, où là, on a encore quelque chose de plus institutionnalisé, parce que ce sont des écoles privées qui peuvent se le permettre. Et je pense là à Barcelone et à Bruxelles, où on a ce qui s'appelle des capitaines et des états généraux, non pas pour créer la révolution, mais simplement qui permettent aux élèves d'amener en tout cas des revendications vers les adultes.
Alors pour les enseignants, c'est à la fois passionnant, mais c'est aussi un sacré travail, Sylvain Vagnon, parce que ça veut dire beaucoup aussi de travail en collaboration. Enfin voilà, une école de Crolly, c'est une équipe.
C'est vrai que ce qui est une nécessité, c'est de travailler en commun, c'est de partager, d'échanger beaucoup, et de travailler en équipe, et de multiplier d'ailleurs les activités qui vont faire qu'on va travailler en équipe de façon obligatoire. Par exemple, je pense aux activités comme le théâtre ou le jardinage, ça nécessite qu'on se retrouve, qu'on ait les mêmes préoccupations et de connaître un petit peu ce que fait l'autre. On ne peut pas travailler chacun de son côté et ça, c'est voulu. C'est un investissement important et une vigilance de tous les instants, hein, parce qu'il y a quand même toujours une routine qui peut se mettre en place et il faut essayer de lutter contre cette routine pour justement toujours apprendre, hein, en tout cas des choses nouvelles, d'arriver de nouveaux enseignants qui doivent à la fois apprendre les fondements en tout cas de cette pédagogie et puis ensuite la pratiquer. Il y a un vrai système en tout cas qui est proposé.
Nicole, Christophe.
Moi, ça a été très précieux pour moi parce que j'arrivais d'autres écoles, j'avais un an de vécu, j'avais envie de venir ici mais je ne savais rien et c'est vrai que les collègues m'ont énormément aidé à me donner effectivement des pistes ou simplement à discuter sur la manière dont les enfants se comportaient. Quand je suis arrivée, effectivement, on a pu me dégager un petit peu de temps au moment de la récréation parce qu'on n'avait pas tous les enseignants n'allaient pas en récréation en même temps. Moi, je profitais pour aller dans une classe d'un autre enseignant ici qui était là depuis longtemps et qui pouvait que je voyais faire, parce que ça, c'est très important de voir faire. C'est pas simplement du discours ou de l'échange entre adultes, de voir quelqu'un qui agit sur le terrain, les échanges avec les enfants, la manière dont les enfants circulent dans la classe, ce qui était permis. C'était très important pour moi parce que quand on arrive ici, on peut être complètement déstabilisé au niveau par exemple de la discipline. Est-ce que je laisse tout faire ou beaucoup? On est toujours un peu sur le fil du rasoir et c'était très important pour moi de voir un enseignant qui était dans l'école depuis pas mal de temps. Ça ne voulait pas dire que j'allais l'imiter, mais je voyais quelqu'un d'autre.
Bon, moi, j'ai beaucoup, beaucoup écouté au début, hein, parce que moi, je sortais de l'école normale. On m'avait appris à faire certaines choses. Donc, c'est vrai que quand Mademoiselle Valoton m'a emmenée dans cette classe de 10e, puisque j'ai commencé en 10e, et qui m'a dit, c'est simple ici, il n'y a pas d'emploi du temps, il n'y avait pas. Et je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi, je sais faire que... Bon, fort heureusement, à côté, j'avais Gabriel Barbeau qui avait la 11e et qui et puis Alain Fouliard de l'autre côté. J'ai beaucoup écouté, j'ai fait ce que je savais faire au début forcément. Bon, j'ai pas du tout écouté les conseils de l'inspectrice d'alors qui était un des profs de l'école normale d'Auteuil puisque on dépendait de l'école normale de garçons, qui m'avait dit c'est pas compliqué, vous faites du français et des maths le matin, du 2 Crolly l'après-midi. Et les animaux quand même, c'est mieux. Alors, on avait un tout petit couloir dans le bâtiment. Vous mettez une étagère et vous les mettez sur une étagère dans le couloir. J'ai rien dit, j'ai écouté, j'ai fait.
Anna, tu veux voir notre construction?
Alors, faites voir. Vous avez fait tous les deux?
Oui. Et Bassine nous a un peu aidé, mais à la fin, il s'est encaissé.
C'est une petite maison? Et là, c'est quoi?
Là, ça, c'est le robinet.
Le robinet?
Ça, c'est le robinet.
Et là, c'est le miroir.
Ça, c'est le savon. Ça, c'est le... Ça, c'est la vitrée.
Maman, ça aussi, c'est un miroir.
Ça aussi, c'est un miroir. Ça, c'est un miroir.
Ah, un miroir aussi. Ah oui, avec le robinet dans la salle de bain.
Non, ça va pas à la pole. Ça, ça va là, vers plus joli. Tu vois?
Bon, les garçons, vous reprendrez votre construction plus tard. C'est l'heure de la récréation. Allez-y. Vous avez réussi, Marjane?
Florence Beaujou, alors vous êtes enseignante encore à l'école de Crolly, au collège.
Voilà. Moi, je suis parmi celles qui sont là depuis le plus longtemps actuellement. Je suis rentrée en 1981. Quand je suis arrivée, moi, j'ai trouvé que les gens avaient beaucoup de disponibilité. D'ailleurs, c'est un endroit où c'est pas parce qu'on a lu. Il y a très peu de choses, de toute façon, directement de Crolly. Même où qu'on a lu aussi des comptes rendus d'expérience menées par des enseignants et qu'on va vous faire lire, que vous allez tout comprendre. En fait, c'est quand même, comme les enfants, il y a des choses qu'ils apprennent en faisant. Eh bien, les enseignants, il faut qu'ils apprennent en faisant. Et ça peut pas se faire rapidement, c'est très complexe, il y a beaucoup de choses qui sont pas écrites, de règles qui sont pas dites et qui sont d'une évidence parce que c'est des règles souvent de bon sens. C'est sûr qu'il faut donner du temps, pouvoir être disponible vis-à-vis des enfants. À plein de moments, on a peu de temps libre. On a aussi chacun des tâches à faire, en plus de ce qu'on peut appeler enseigner en classe. Donc on prend en charge quand même une partie de la gestion de l'école. Par exemple, on organise des mercredis visiteurs, soit des parents, soit des professionnels qui peuvent être enseignants, éducateurs, en formation ou déjà formés. Et on est là pour répondre aux questions et leur montrer aussi les locaux. Bon, ça par exemple, c'est un temps qu'on donne et je pense pas que ça existe ailleurs. La gestion de l'école, c'est des choses aussi beaucoup plus basiques. Ça peut être, y a des gens qui sont responsables des commandes. Il y en a qui sont responsables de maintenir le matériel en état. Il y a recevoir les futurs parents. Et ça aussi, ça prend pas mal de temps. Il y a l'association des amis de l'école de Crolly, donc qui regroupe parents et enseignants. On peut être faire partie aussi de commissions. Bon, ça sert aussi des heures en plus. Bon, alors, les enseignants qui ont des projets dans d'autres établissements, il y en a partout. Mais là, c'est tout le temps. Et c'est pour tout le monde. Enfin, c'est-à-dire, c'est là, en fait. Souvent, ailleurs, ça va être à titre individuel. Ou parmi toute l'équipe, il y en a deux, trois qui ont un petit projet. Là, il y a des choses que nous, on fait tous les ans. Et tous. Et là, c'est un gros changement, je trouve, que par rapport, dans le sens où il y a une sorte d'unité de cohérence. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'intéressait au départ. De se dire, on n'est pas qu'enseignant dans sa classe. On fait partie d'un lieu de vie. Et dans ce lieu de vie, si on demande aux enfants d'être responsables et de prendre en charge des choses, il faut que les adultes y aient le même pendant.
Tu disais que tu avais des inquiétudes pour rentrer au lycée. Tu vas rentrer au lycée, c'est ça, l'année prochaine, hein?
1968.
Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est vraiment faible à côté des autres qui sont dans les lycées? Attends,
dans une éducation, c'est pas le problème c'est pas ce problème-là qui est capital. J'ai l'impression que si on t'enseigne des choses à l'école de Crolly, c'est pas uniquement des matières qu'on t'enseigne. C'est une manière d'aborder tous les problèmes qui se poseront à toi dans la vie.
Qu'est-ce que tu attends d'une éducation? Est-ce que tu attends un papier qui te servira comme une monnaie, c'est-à-dire un diplôme comme une monnaie dans la vie? Ou bien est-ce que tu attends de pouvoir dominer tout ce qui t'arrivera dans la vie, de pouvoir être responsable de toi-même, de pouvoir enfin être libre, tant pis pour le mot, enfin.
Moi, je préfère arriver dans les études et avoir mon baccalauréat que de suivre les études, que les idées qu'on m'a enseignées.
Et ton baccalauréat, ça te servira à être un homme? Bon, mais De Crolly, c'est le but pour De Crolly. Former des hommes, c'est pas former des gars qui ont leur baccalauréat. De Crolly, ça s'en fiche, ça, de ça.
Attention, deux fois. Un, deux, trois, quatre.
Ces enfants, donc jusque... Alors d'abord, ils font un cycle complet, généralement, hein, de la maternelle
à la troisième.
Et puis alors ensuite, c'est vrai qu'ils vont dans un lycée. Il n'y a pas de lycée de Crolly.
Non, non. C'est sans doute regrettable. Peut-être qu'on aurait pu réussir quelque chose qui aurait facilité la vie de ces anciens élèves que je retrouve là et qui me racontent un peu comment ça s'est passé par la suite. Disons qu'on avait de bons résultats à la fin de la troisième, mais en ce temps-là c'était le BEPC, ça se passait bien, mais dans l'admission en seconde il y a eu des fortunes diverses. Certains des élèves ont eu du mal à s'adapter. En fait, on le savait parce qu'on essayait de les suivre justement pour les aider à s'adapter. On l'a fait quelques fois sur un certain nombre d'entre eux, mais ça n'a pas été général. Et sans doute leur est-il fallu pour que on puisse assurer cette adaptation progressive à un système différent. Ils avaient sinon les connaissances nécessaires pour suivre, mais ils n'étaient pas habitués à l'enseignement magistral.
Jean-Paul Morlaix, alors, vous êtes allé dans quel lycée, vous, du coup, un lycée public
Oui, un lycée public, Paul Valéry, de 64 à 66, les trois années de lycée.
Et ça a été difficile ou pas, alors, l'adaptation?
Oui, c'était difficile.
Alors, qu'est-ce qui était difficile?
Les méthodes. D'abord, une certaine discipline, une autre relation au professeur, le nombre d'élèves dans la classe. En terminale, on était 50. J'étais bon élève à la fin d'école ici, et j'ai failli doubler la seconde. Je me souviens, mais là c'est au collège, au niveau mathématiques, et ça m'a beaucoup frappé quand j'étais passé au lycée, c'est que mathématiques, le professeur nous donnait une question à résoudre, chacun essayait tout seul, et ensuite on mettait en commun les résultats, et à partir des résultats, le professeur nous disait, vérifiez si dans d'autres situations c'est vrai aussi. Évidemment qu'on y arrivait, et après, on va en faire un théorème. on construisait ensemble, rédigeait ensemble le théorème. Quand je suis passé au lycée, j'étais très bon en maths, je suis devenu nul, parce que le professeur mettait le théorème, il le démontrait au tableau, et après, un exercice. Et moi, j'ai pas compris qu'on fasse comme ça, à l'envers.
En fait, vu à chaque fois, il fallait trouver l'origine, inventer,
voilà, découvrir soi-même. On entrait dans le mécanisme, et du coup, le théorème était évident, puisqu'on l'avait démontré nous-mêmes. Mais on est bien préparé, parce que, à ma grande stupéfaction, j'ai eu le prix d'excellence en terminale. Alors que je savais même pas encore qu'il y avait des prix à la fin d'année.
Oui, parce que le mode d'évaluation à De Croly, c'est pas les notes, c'est pas, il n'y a pas de classement, évidemment.
Voilà. Et surtout, les classements, c'est quelle drôle de chose.
Et donc, du coup, vous avez eu votre bac, Jean-Paul Morlaix, et vous dites que vous étiez armé. Alors, qu'est-ce que vous a apporté, justement, l'école De Croly là,
Un exemple, dans le premier ou le deuxième mois au lycée, le professeur interrogeait les élèves, il se levait, il se mettait debout, et puis, quelquefois, quand il n'arrivait pas à répondre, on demandait à la classe, moi, je lève la main. Et à la sortie, il y en a quatre qui m'entourent, qui disent, tu fais plus ça, plus jamais. Parce qu'évidemment, si on répondait, on montrait que l'autre était mauvais. Et comme c'était noté, j'étais stupéfait, évidemment, j'ai oublié. Et bien, un peu plus tard, en histoire, le professeur dit, est-ce que quelqu'un va faire un exposé sur la résistance? Puis je vois que personne. Je dis, moi. Et les autres me regardaient avec stupéfaction. Alors que faire un exposé, c'est dans la nature des choses. Et là, non, c'est surtout pas prendre de risques.
Pas prendre de risques, voilà. Rien faire. Voilà. Et puis parler à l'oral aussi, c'était compliqué.
Oui, dans oui, tout à fait. Donc voilà, c'est... Donc c'est des beaux souvenirs quand même.
La société avant la Révolution. À l'époque, il y avait trois sortes de personnages. Il y avait les nobles, le clergé et le tiers-état. La noblesse, c'était des gens de la cour, comme duc, baron, marquis, c'était des gens comme ça. Le clergé, c'était des gens d'église, comme évêque, prêtre... Vous voyez, toute cette catégorie de gens qui ne payaient pas d'impôts et qui recevaient des bourses du roi, comme les nobles, mais qui étaient bien sûr dans l'église. Et le tiers état comprenait tous les Français. Tous les Français. Et le tiers état n'avait rien et payait tout. C'était pas tellement rien, mais il fallait toujours payer de l'argent au roi.
Si les gens ne voulaient pas travailler pour les nobles et le clergé, qu'est-ce qu'on leur faisait?
Je pense qu'on ne peut qu'être heureux d'être passé par là.
Louis Aquin.
Ça a été mes trois bonnes années de scolarité, bonnes au sens où j'étais heureux, où j'ai appris des tas de choses, sans avoir l'impression qu'on me bourrait le crâne.
D'informations que vous devez recracher.
Non, puisqu'on apprend, on le découvre, et résultat, ça reste. Alors que quelque chose qu'on apprend par cœur, si on ne le récite pas... Tous les huit jours, on finit par l'oublier. Hein. La seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait qu'une école de Croly en France. Alors bon, il y a d'autres écoles à méthode moderne et avec une meilleure participation des enfants que dans l'enseignement traditionnel. Mais ça pourrait, je vois pas pourquoi ça se développerait pas. Hein.
Alors peut-être pour terminer, Sylvain Vagnon, il y a une école de Croly à Saint-Mandé, une à Bruxelles bien sûr, hein, c'est l'école de Ovid de Croly qu'il a fondée lui-même, une à Barcelone, mais voilà, il n'y en a pas tant que ça. Alors
oui.
Pourquoi?
Alors, il y a plusieurs choses et c'est une réelle question, parce qu'on voit aujourd'hui par exemple que le mouvement Montessori, lui... crée énormément d'écoles.
Oui, ça fonctionne bien. Hein.
Ça fonctionne non seulement bien, mais c'est-à-dire qu'on voit que chaque mois, hein, enfin, on a des créations, enfin des volontés de création. Là, ce qui se passe, c'est pour ça que je vous mets un peu la parallèle, c'est que effectivement, on a des écoles, bon, ici, qui se reconnaissent dans la pédagogie de Croly. Il y en a en Belgique, et notamment, je pense à une très précise qui s'appelle l'école Ahmed, et qui a été créée par l'ancienne directrice de Croly Bruxelles, donc en 1934, et c'est une école qui existe encore. Il y en a d'autres, il y a tout un réseau, en tout cas, d'écoles qui se veulent de Crolyennes en Belgique, mais c'est vrai que ça fait très peu. Et ces écoles qui se sont créées, elles se sont créées en lien effectivement avec Bruxelles, mais sans créer par exemple un centre de formation, ce qu'a fait le mouvement Montessori, qui a créé un réseau international, où il y a une formation, il y a une structuration. Là ici, chez De Croly, il n'y a pas eu ça, il a cherché quand même à la fin de sa vie à expliquer aux enseignants sa pédagogie, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu un centre de formation structuré. Et ça, évidemment, au moment où vous voulez s'aimer des nouvelles écoles, c'est un peu complexe. Vous devez aller sur place, observer, regarder ce qui se passe, et ce n'est pas toujours si simple
de comprendre en tout cas le fonctionnement d'une telle pédagogie. Évidemment, la grande difficulté aussi, c'est qu'avec tout ce qu'on vient de dire, c'est que ça ne peut pas être fait dans une classe. Ça, c'est une grosse question, toutes ces pédagogies. Chez Freinet, ils ont décidé de dire si on peut être un enseignant Freinet dans une classe au sein d'un établissement qui ne l'est pas. Mais au sein des écoles, du mouvement de Crowley ou Montessori, on voit bien que c'est impossible. La façon de fonctionner est tellement différente du système classique qu'évidemment, il faut qu'il y ait un ensemble, c'est-à-dire que ça soit une école entière. Évidemment, c'est plus difficile à créer que si c'est par rapport à une individualité.
Quand on écoute, on essaye de comprendre, on note, et c'est un peu vague. Quand on dit la causerie, je trouve que c'est plus agréable.
Et ça dépend quand même des sujets. Parce que moi, je préfère des fois écouter une causerie quand elle est bien, que d'en faire une. Mais aussi, il y a d'autres fois où je préfère quand même faire ma causerie.
Ceux qui sont intéressés, ils s'intéressent vraiment à la causerie, ils posent des questions et tout ça, tandis que les autres sont bien obligés de faire un compte-rendu quand même, parce que il faut que laisser une trace de la causerie.
Merci à Florence Beaujou, Nicole Christophe, Michel Daubet, Louis Aquin, Marie-Alice Sartel, Christine et Jean-Paul Morlet, Sylvain Vagnon et Claudine Vatini. Merci également à Françoise Delahaye, actuelle directrice de l'école de Crowley. Prise de son, Hélène Langlois et Clément Berman. Mixage, Pierre Montel. Avec des extraits des documentaires L'école de Crowley à Saint-Mandé, de 1968, Des animaux à l'école, de 1978, et École à prendre, de Yolande Robveil, 1991. Un programme pour la vie, L'école de Crowley. Un documentaire de Séverine Liattard, réalisé par Anne Fleury.
Demain, nous continuons notre série consacrée aux pédagogies nouvelles en nous intéressant à la Première Guerre mondiale et au rôle qu'elle a joué dans l'invention ou la réinvention de certaines méthodes d'éducation.